Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
En 1932, Huxley décrit dans son roman Le meilleur des mondes des êtres humains fabriqués en série. Le procédé Bokanovsky permet de créer 96 jumeaux identiques pour faire fonctionner 96 machines tout aussi identiques. Le clonage et la figure du clone nourrissent nos imaginaires depuis longtemps, avant même que la science ne découvre la structure chimique de l'ADN. Quand soudain, coup de tonnerre. Le 24 février 1997, l'humanité a reçu un faire-part, pas comme les autres. La naissance de la brebis Dolly, le premier mammifère cloné. Une annonce qui a à nouveau ravivé les fantasmes, mais depuis, sommes-nous vraiment entrés dans l'ère des clones ? S'il vous plaît, clone-moi un mouton, c'est notre invention du jour, une invention au centuple, bienvenue dans Eureka. Et pour bien comprendre l'histoire du clonage et de cette invention, nous sommes très honorés de recevoir avec nous en plateau Edith Heard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au Collège de France et directrice générale de l'EMBL, biologie spécialisée dans la génétique. Et nous sommes en ligne avec Camilla Baumas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure biologiste moléculaire au CNRS de Toulouse et formatrice au CNRS Formation Entreprise. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. On commence avec un extrait du film « Ces garçons qui venaient du Brésil » de Schaffner, un film de 1978. Dolly n'a pas encore vu le jour, mais déjà, il est question de 94 clones d'Adolf Hitler. C'est dire combien l'idée du clonage secoue nos esprits.
Le clone.
Quelle serait votre réaction si je prenais un peu de la peau de votre doigt et que j'en fasse un autre Ezra Lieberman ?
Eh bien, je vous dirais de ne pas gâcher votre temps ni la peau de mon doigt.
En fait, c'est comme ça qu'on obtient un clone. On l'a d'abord conçu avec des plantes. Il s'agit simplement d'une bouture que l'on transplante et qui pousse pour devenir l'exact duplicata de la plante donneuse. On arrive maintenant à faire la même chose avec des animaux de laboratoire.
Autrement dit, vous pouvez produire un animal à partir de lui-même.
Nous prenons l'œuf non fécondé dans l'ovule d'un sujet femelle et ensuite nous détruisons tous les gènes et chromosomes. Nous implantons le noyau de la cellule donneuse, qu'il est facile de prélever sur une simple goutte de sang ou sur un peu de peau. Cette cellule, qui garde son patrimoine génétique intact, devient normalement un embryon qui, lui, produit une créature vivante.
Et sans parents.
En fait, elle est sans père parce que l'œuf n'a jamais été fécondé. Et sans mère parce que son patrimoine génétique provient d'un être différent. Vous me suivez ?
Et cette créature est une exacte copie de lui-même. Oh, docteur, c'est à peine incroyable.
Edith Heard, une réaction face à cette définition du clone et du clonage que l'on vient d'entendre ?
Ben c'est assez précis en fait, c'est impressionnant en fait d'entendre ces propos d'il y a assez longtemps. Donc je pense que scientifiquement les définitions sont exactes et l'excitation ou le merveillement ou le choc peut-être est toujours là.
Camilla Baumas, vous aussi ce choc ?
Oui, Edith a raison parce que effectivement déjà à cette époque-là, il donnait une définition relativement exacte d'un des types de clonage qui existent, c'est-à-dire mettre un noyau d'une cellule donnée dans l'ovocyte lui-même dépourvu de son noyau initial. Donc, et voilà. Et ça n'a pas besoin d'avoir de parents, ça pas, voilà. Puisque le noyau qu'on introduit, le noyau étranger, est déjà 2X chromosomes. Donc, il n'y a pas besoin d'une fécondation.
Alors nous allons revenir plus précisément sur ces méthodes et ces différentes méthodes de clonage. Pour rester sur la définition, Camilla Baumas, qu'est-ce que c'est un clone hein, plus précisément, de quoi on parle quand on parle de clone ?
Alors, par définition, un clone, c'est l'obtention d'un être vivant, un ou plusieurs êtres vivants, qui sont identiques entre eux et surtout identiques, génétiquement parlant, à l'individu d'origine qui leur a donné son génome. C'est donc l'obtention d'une descendance qui porte un ADN identique à l'individu parental. Voilà, qui leur a donné son ADN.
Edith Heard, quelque chose à ajouter sur cette définition du clone ?
Non, c'est exactement ça. Alors peut-être ajouter que le mot clone provient du grec clone, clonos, donc brin d'ail. Donc en fait, c'est effectivement quelque chose qui est reproduit à l'identique un être qui existe déjà. Et il y a beaucoup d'exemples de clones naturels chez les plantes ou même les bactéries. On peut considérer qu'une bactérie est clonale parce qu'à chaque division cellulaire, elle se reproduit elle-même. Mais aussi certaines plantes qu'on utilise et on aime beaucoup comme la vigne. Les vignes sont des clones en fait. Notre vin provient des clones. Donc voilà, ça existe partout dans la nature, mais le sujet du clonage, effectivement, de la production de clones chez, par exemple, les mammifères, ça, c'est quelque chose qui, normalement, ne provient pas naturellement, sauf dans les cas des jumeaux identiques.
Oui, sur ces clones, en tout cas naturels dans le monde vivant, il me semble que la première utilisation scientifique du mot clone, c'est un botaniste.
Voilà, exactement. C'était il y a maintenant plusieurs siècles. Et puis, effectivement, c'est l'idée que finalement, chez les plantes, on voit très bien qu'il n'y a pas forcément besoin de reproduction sexuelle et qu'on peut reproduire un individu à partir de quelques cellules, finalement.
Des boutures. Voilà. Kabila Bomas, sur cette reproduction asexuée, le clonage naturel.
Tout à fait, tout à fait. Ça s'est vu. En fait, la toute première fois, le terme clone a été utilisé pour la toute première fois en 1903 par le botaniste Herbert John Weberen, qui a désigné donc des plantes reproduites par multiplication asexuée. Et comme disait Edith, et effectivement, ça concerne les boutures, par exemple. Le bananier peut aussi se multiplier par des rejets. Pareil pour l'olivier. L'olivier, quand le tronc principal est fatigué, il jette d'autres semences et donc il se multiplie à l'identique. La canne à sucre, elle se reproduit par bouturage, effectivement. Donc vraiment, ce terme-là de clone est apparu en 1903. C'est dire si les gens, à cette époque, n'étaient pas visionnaires. Bon, ils s'étaient limités à l'époque, bien sûr, aux végétaux, mais après, bon, ça s'est développé sur les cellules individuelles et aujourd'hui sur les animaux.
Alors, Edith Heard évoquait les bactéries, sur cette reproduction asexuée, on peut aussi évoquer certains animaux comme les reptiles, les crustacés, les insectes également.
Absolument, les aphides. Donc, comme on disait, il y a plusieurs exemples de clones naturels. Mais peut-être on rentre pas dans les détails maintenant, mais effectivement, les clones sont pas très efficaces de point de vue évolutif. En fait, même si c'est des individus identiques, en fait, l'absence de reproduction sexuelle, in fine, fait souvent des... Comment dire ça ? Ça ferme les pistes parce qu'il y a une accumulation de mutations dans le temps qui fait que finalement ces individus ne peuvent pas continuer éternellement. Mais bon, pour une génération en tout cas, les clones peuvent être vraiment difficiles à distinguer et très fidèles de point de vue génétique entre eux. Mais il ne faut pas oublier que chaque division cellulaire apporte des changements, des mutations qui arrivent de manière spontanée. Et du coup, avec le temps, même dans un individu où toutes les cellules sont éventuellement génétiquement identiques, on a des différences, on a des mosaïcismes. Donc même les jumeaux identiques, avec l'âge, peuvent diverger de manière assez importante.
Il me faut une goutte de ton sang. De ton sang. Ah bon ? Oh, John, ça fait mal.
Mais ça n'est rien, John. Ça fait partie du miracle du clonage.
France Culture.
Bonjour, John. Bonjour, John.
Eureka.
Bonjour. Ils ont trouvé des sangs de dinosaures vieux de 100 millions d'années.
Natacha Trémoux.
le miracle du clonage dans Jurassic Park. Plus sérieusement, Edith Heard, quelles sont les bases scientifiques qui ont permis le développement du procédé clonage ?
Alors, le départ de tout ça, c'était quand même à la fin du 19e siècle, où les scientifiques cherchaient à comprendre si chaque cellule d'un individu ou d'un embryon était capable de produire l'individu entier, ou finalement il y avait une spécialisation qui avait lieu très tôt. Donc on le savait déjà que le développement de l'embryon se passe par étapes de complexification. On commence avec l'œuf fécondé qui se divise une fois en 2 cellules, 4 cellules. On ne voit pas trop de différence à ces étapes-là, mais plus tard, on voit des choses aussi différentes qu'un cerveau, une rétine d'œil, etc. Donc en fait, la question c'était, est-ce que toutes les cellules étaient équivalentes de point de vue de leur potentiel, ou est-ce qu'il y avait une spécialisation qui avait une restriction, et que la lignée germinale, que les cellules qui allaient donner lieu aux gamètes, l'œuf ou le sperme, étaient capables de générer la prochaine génération et tout un embryon. Et donc, il y avait des expériences de Weismann et de Roux à la fin du 19e siècle, donc des biologistes allemands, qui avaient regardé les embryons, si on fait une ablation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'embryon se forme normalement ou pas? Et de là est venue l'idée que non, en fait, chaque cellule a ses propriétés, son identité, et il y avait une restriction très vite, et finalement, c'était que les cellules germinales qui étaient capables de donner lieu à tout. Mais en fait, à la suite de ça, il y a eu... et ça, c'était un peu... On va pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu l'hypothèse qui était là pour contrer la théorie de Lamarck. La transmission des caractères acquis. Donc ça, c'était l'idée, c'était on pouvait pas transmettre des caractères acquis parce que finalement, c'était que la lignée germinale qui avait l'information qui pouvait être propagée. Bon, ceci dit, donc un peu plus tard, il y avait d'autres scientifiques, et là, on parle effectivement de Spemann, mais de Drisch d'abord, qui ont pris des embryons très tôt et qui ont séparé les cellules, les blastomères, au stade 4 cellules, par exemple chez l'oursin, ou au stade 8 cellules, le salamandre. Et là, ils ont vu, enfin Spemann a vu avec le salamandre, qu'en fait on pouvait créer un individu entier, même avec une cellule d'un embryon de 8 cellules. Donc ça voulait dire que les cellules étaient totipotentes, elles pouvaient tout faire, même avec l'avancement du développement. Donc ça allait contre l'idée de Weismann et Roux, mais... il restait cette idée que peut-être, avec le développement, un peu plus tard peut-être, on pouvait plus, que chaque cellule était quand même spécialisée, qu'il y avait même une perte de l'information génétique avec le développement. C'est-à-dire, on perd les gènes ou les chromosomes. Et donc, une cellule qui était spécialisée et qui exprime que certains gènes et pas d'autres, c'était parce qu'elle avait perdu les autres, pas parce que tous les gènes étaient là et que certains étaient exprimés et les autres étaient réprimés. Donc c'était un débat très actif jusqu'aux années 50, où là, Briggs et King ont abordé la question différemment en développant la technologie qui permettait justement de prendre le noyau qui contient l'ADN d'une cellule somatique et de la mettre dans un ovocyte qui n'avait plus son noyau et son ADN, et voir si là, réellement, on pouvait reproduire tout un individu à partir du noyau d'une cellule adulte. Et ça, c'était le début de cette aventure de transfert nucléaire et de clonage qui a abouti, par exemple, à Dolly.
Alors ça, les expériences de Briggs et King dans les années 50, on va y revenir un peu plus longuement. Mais voilà, vous venez d'évoquer le transfert nucléaire. Camilla Abomas, est-ce que je peux vous demander d'expliquer un peu de quoi il est question quand il est question de transfert nucléaire?
Et en fait, là... Le transfert nucléaire, c'est récupérer le noyau d'une cellule et l'implanter dans l'ovocyte de la même espèce, chez la femelle d'une même espèce. Donc, en fait, il s'agit de l'injecter avec une aiguille dans un ovocyte. Et après, l'ovocyte, en fait, on remplace le noyau initial de l'ovocyte, qui est la cellule sexuelle hein, d'une femelle, on remplace son noyau initial par un nouveau noyau. Et ce nouvel ovocyte, du coup, on l'implante dans l'utérus d'une femelle. Et comme ça, on a ensuite des descendances. Et effectivement, comme disait Edith, là, cette technique-là qui a commencé à donner des résultats plus ou moins positifs avait commencé en 52 par Briggs et King. Mais bon, les clones qu'ils avaient obtenus n'étaient pas si viables que ça. Et ce n'est que 10 ans après, en 1961-62, que John Gurdon a réussi le premier clonage avec cette méthode. Et en utilisant donc les noyaux initiaux de noyaux de cellules adultes et non pas de noyaux de cellules embryonnaires. Donc, John Gurdon avait utilisé donc un ovocyte énucléé dans lequel il a rentré un noyau de cellules adultes et il a fait ça chez des amphibiens, chez le xénope, et il a obtenu des clones viables et fertiles. Et en fait, cette technique, entre guillemets, elle semble facile parce qu'on prélève un noyau d'une cellule juste en l'aspirant avec, enfin juste, c'est un grand mot, mais en l'aspirant avec une seringue et après en le réinjectant dans un ovocyte énucléé avec la seringue. Voilà.
Mais avant,
ensuite, on fait comme si on faisait une fécondation in vitro.
Mais avant toutes ces expériences, il a bien fallu comprendre le fonctionnement et la structure d'une cellule pour la manipuler. Pour revenir un peu justement sur les prémices de ces procédés du clonage, Edith Hurd.
Oui, bien sûr. La cellule comme étant, je dirais, l'entité de base ou l'unité de base de la vie, ça date de bien longtemps. Donc, c'est en 1855, je pense, que Virchow a effectivement émis l'idée de omnicellula cellula. Donc, en fait, à partir d'une cellule fécondée, l'œuf fécondé, on peut produire d'autres cellules fécondées. C'est l'unité de la vie. Donc, la compréhension que le noyau contient l'information génétique, ça, c'est effectivement tout un travail qui a été effectué à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et rajouté à ça, donc, la génétique, la réalisation qu'on pouvait propager donc de l'information d'une génération à l'autre, et il y avait des règles, les lois de Mendel, de l'hérédité, etc. Tout ça, c'était un ensemble de découvertes historiques qui sont venues de diverses directions. Mais cette idée que finalement, c'était le noyau qui porte l'information génétique était venue peu de temps avant ces expériences de Weissmann et Roux dont on parlait tout à l'heure. Mais pourquoi le choix de, par exemple, des grenouilles pour faire ces premières expériences de Briggs et King? C'était en fait une facilité parce que, comme disait Camilla, en fait, ça semble facile comme manip. Mais en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut une précision de manipulation. Et donc, en fait, les œufs de grenouilles sont énormes. Donc, c'est très facile, en fait, de voir déjà enlever le noyau de ces œufs amphibiens et puis ensuite d'injecter plein de noyaux dans cette vésicule germinale, on l'appelle. Donc c'était techniquement plus facile de commencer avec ce type de système. Et c'était bien avant qu'on comprenne quelle était exactement la base et le rôle de l'ADN, qu'on a commencé à comprendre que c'était dans le noyau qu'il s'agissait de cette information essentielle.
Depuis l'an dernier, elle s'est enrichie d'un mode d'enfantement vraiment original et qu'elle doit aux splendides expériences de Briggs et King sur la grenouille. Au moyen d'une très fine pipette, ils amputent le noyau d'un œuf et ils y introduisent un autre noyau, mais celui-là tiré de l'une des nombreuses cellules qui forment un embryon. L'œuf ainsi recomplété se développe pour donner un être complet, qui aura une constitution héréditaire identique identique à celle de l'embryon donneur et qui sera donc, par rapport à ce dernier, une sorte de jumeau retardé plutôt qu'un véritable descendant. L'intérêt capital de cette expérience est de faire voir que n'importe lequel des noyaux de l'embryon peut assurer le développement de l'œuf. Jusqu'ici, les recherches n'ont porté que sur des embryons plus ou moins avancés, mais il se pourrait que des résultats analogues fussent obtenus avec des noyaux tirés d'une larve, voire tirés d'un adulte. Et à la limite, on peut risquer l'hypothèse que toutes les cellules du corps, cellules de peau, de muscles, de glandes, contiennent de quoi faire développer un œuf. En toute cellule d'un être résiderait le principe de l'être tout entier. Nulle parcelle de chair serait détestatrice de vertus séminales.
On l'évoquait à l'instant, le premier animal cloné n'est pas une brebis mais une grenouille. C'était une archive de 1955 par Jean Rostand. Edith Heard, une réaction à cette archive?
C'est, encore une fois, c'est très, très exact. Et je pense que ça transmet aussi cette excitation de la réalisation que finalement, tous les noyaux de toutes les cellules d'un adulte sont quand même capables de créer un individu entier. Donc, il y a plusieurs implications à ça, mais déjà cette idée que finalement une cellule qui est très très spécialisée, et même une cellule, maintenant on sait, même une cellule qui ne se divise plus, par exemple une cellule neuronale, elle est déjà post-mitotique, on appelle ça, mais en fait on arrive quand même à utiliser ce type de noyau pour recréer un individu entier. Donc je pense que cet éblouissement est bien transmis dans ces mots qui ont été prononcés.
Camilla Beaumas.
Oui, c'est exact. Hein. Moi, je suis très impressionnée par la vision qu'ils avaient à cette époque. Et ils ne croyaient pas si bien dire. Et après, les scientifiques, ils ont essayé de bien faire, de mettre en exécution ce qu'ils disaient à l'époque. Mais c'est vrai tout ça. Donc en fait, ça a commencé par la grenouille en 52, ensuite en 62 par le xénope, c'est un amphibien aussi, le poisson rouge en 63, la brebis Dolly en 97, n'est-ce pas? Il y a eu la vache, une vache appelée Marguerite, qui fait référence au film Marguerite, qui a été clonée par l'INRA en 98. Il y a eu des chats, des chiens, des chevaux, un dromadaire en avril 2009. Il y a eu, en 2018, les premiers primates. Il y a eu deux macaques, des macaques crabiers, sont clonés en Chine en 2018. Vous vous rendez compte? On part de la grenouille et on arrive aux macaques, maintenant.
Merci pour cette généalogie et ce bestiaire du clonage. Mais alors pourquoi en 1952, Briggs et King font ces expériences? Il me semble qu'à la base, c'est pas du tout pour développer le clonage.
Peut-être je peux juste dire, je pense qu'une des grandes questions que j'évoquais tout à l'heure, c'est à quel point finalement le génome, enfin les chromosomes, restent présents dans toutes les cellules, ou est-ce qu'il y a cette perte d'informations génétiques au cours du temps, au cours du développement d'un individu? Et donc, prouver ça, c'était quand même très important, parce que c'est fondamental à la vie finalement. Est-ce qu'on garde notre patrimoine héréditaire dans toutes les cellules ou juste dans la lignée germinale? Donc ça, c'est quand même, je dirais, presque un siècle de théories qui étaient autour de ça. Donc c'était un grand défi qu'il fallait vraiment résoudre et comprendre. Donc je pense que ça, c'était une des grandes questions.
Et ils veulent établir hein, s'il est possible ou non de réaliser ce fameux transfert nucléaire dont on parlait.
Exactement, voilà.
Camilla Beaumas, il me semble aussi que la découverte de l'ADN et le développement des techniques de clonage sont intimement liés.
Complètement, complètement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, on parle du clonage. En fait, il existe deux grands types de clonage. Le clonage dont on est en train de parler, qui consiste à transférer tout un matériel génétique, donc tout le noyau qui renferme le matériel génétique d'une cellule à une autre, à un nouveau site. Et il y a le clonage qu'on appelle le clonage moléculaire, qui consiste à transférer uniquement un fragment d'ADN. Donc effectivement, ces deux techniques de clonage, elles n'auraient jamais vu le jour si on n'avait pas d'abord identifié l'ADN, sa structure, la cellule, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc tout ça, effectivement, avait commencé donc à peu près en 1902 par la théorie de l'hérédité, et que l'hérédité était portée par le chromosome. C'est la théorie de Théodore Bovary et Walter Sutton, et qui a été confirmée par les travaux de Thomas Morgan, comme quoi c'est les chromosomes qui portent l'hérédité. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1944, qu'il y a eu trois chimistes qui travaillaient au Rockefeller Institute à New York, c'est Oswald Avery, Colin McLeod et MacLean McCarthy, qui ont montré qu'en fait c'était l'ADN qui était le support de l'hérédité. Parce que longtemps on a cru que, vu qu'il y avait énormément de protéines dans une cellule, et ils avaient émis à l'époque la théorie que c'était les protéines qui portaient l'hérédité, alors que non. Donc ils ont montré en 1944, ces trois chimistes, qu'en fait que l'ADN était le support de l'hérédité. Et après sont venues donc plein de recherches pour voir qu'est-ce que c'était que cet ADN, comment il était fait. Et là, ce ne sont plus des chimistes qui sont intervenus, mais des physiciens, comme des physiciens britanniques comme William Astbury et Francis Crick et James Watson, qui ont travaillé par, ils ont étudié la structure de l'ADN par radiocristallographie X et par diffraction des rayons X. Francis Crick et James Watson de l'université de Cambridge ont proposé en 1953, il me semble, un modèle donc de structure d'ADN dit en double hélice, c'est-à-dire que l'ADN est formé par deux brins qui s'enroulent l'un autour de l'autre en spirale. D'ailleurs, il y a un brin qui est appelé brin de Crick et l'autre brin est appelé brin de Watson. Et en même temps, donc ça c'était en 1953, et puis après, en 1956, il y a eu les Américains Savero Ochoa et Arthur Kornberg qui se sont attelés à isoler des enzymes qui appelées des polymérases. Donc en fait, là, ils s'attelaient à trouver la machinerie enzymatique des cellules et le déchiffrage du code génétique. Donc du coup, ces deux scientifiques américains ont trouvé des enzymes capables de synthétiser l'ADN et l'ARN. Puis en 61, il y a Marshall Nirenberg et Johann Mattei qui, eux, ont décrypté le code génétique. Et ça, ça a duré 5 ans. Donc tout ça a fait que on a pu montrer que ce code génétique, enfin, ils ont pu montrer que le code génétique était universel. Et cette universalité du code va apparenter l'homme à toutes les espèces vivantes. Et ça permet ainsi d'envisager, d'exprimer et de cloner des gènes de végétaux, par exemple, ou d'animaux, dans les bactéries et les champignons. Si le code génétique, si l'ADN n'était pas connu, si le code génétique était différent d'un règne à un autre, on n'aurait jamais pu produire, par exemple, faire produire à des bactéries des protéines thérapeutiques, par exemple, ou des hormones comme l'insuline et les hormones de croissance, etc. Vous voyez ?
C'est un Éden où c'est toujours la nuit. J'aime ta dégaine, donc ton ADN. Sans ton ADN, c'est un Éden où je suis toujours assis. On dirait tes gestes un peu ta maman. On dirait tes mots un peu ton papa. Un peu ton maman, un peu ta papa. Si tu vois ce que je vois, on dirait les rois mages vers leur étoile, vers les étoiles.
sa maman. On dirait ses mots, un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa. Si tu vois ce que je vois.
Ton ADN de Philippe Catherine à 16h30 sur France Culture, car nous parlons de manipulation génétique et plus exactement de clonage et de son histoire aux côtés d'Edith Heard, professeure au Collège de France et directrice générale de l'EMBL, biologiste spécialisée dans la génétique, et avec Camilla Beaumas, ingénieure biologiste moléculaire au CNRS de Toulouse et formatrice au CNRS Formation Entreprise. Alors nous parlons des premières expérimentations de clonage, nous arrivons à une date clé. En 1962, le biologiste britannique Gurdon annonce le clonage d'une grenouille. Mais lui, comment procède-t-il, Edith Heard?
Oui, donc en fait, Gurdon s'est inspiré et basé sur les expériences de Briggs & King dont on a parlé. Eux, ils ont montré qu'un noyau d'une jeune cellule, on va dire une cellule embryonnaire, était capable de produire ou reproduire, de driver le développement de tout l'organisme. Par contre, une cellule qui était plus vieille ou une cellule adulte, le noyau n'était pas capable. Donc, c'était déjà important de montrer que le noyau d'une cellule embryonnaire était capable de reproduire l'organisme entier, mais pas une cellule plus âgée. Et donc, Gurdon, en fait, il a développé des techniques en changeant certaines choses. Il a pris un autre type de grenouille, un autre type d'amphibien, c'était le xénope. Il a aussi changé la manière qu'il éniclait l'ovocyte. Donc, en fait, il faisait ça par irradiation, par irradiation des UV. Donc, c'était plus précis que par une aiguille qui pouvait introduire des endommagements de la cellule. Et il a pu utiliser des marqueurs des cellules donatrices parce que c'était très important de montrer que les individus qui développaient pouvaient ensuite produire la prochaine génération. Donc en fait, il a amélioré la technique et il a utilisé des marqueurs qui nous permettaient de voir si donc les individus reproduits à partir de la grenouille qui a été produit par transfert nucléaire, étaient réellement des clones. Et donc ça marchait, c'était pas facile, peu efficace aussi, mais elle a pu montrer qu'à partir des cellules somatiques plus âgées aussi, il était capable de produire des grenouilles entières par transfert nucléaire et que ces grenouilles étaient capables ensuite de se reproduire et de transmettre. Donc c'était, je dirais, un défi technologique surtout, au départ. Et d'ailleurs, moi, j'ai rencontré John Gurdon plusieurs fois dans ma vie. Et la dernière fois que j'étais allée le voir, il a dans son bureau encore un microscope pour pouvoir manipuler ses œufs de xénope et de faire ses transferts nucléaires. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement techniquement efficace et extrêmement intelligent. Donc, mais là, c'était vraiment impressionnant. Et dans la figure du papier, on voit bien la grenouille qui était la porteuse, la mère, et puis qui est d'une couleur, et puis finalement les grenouilles qui ont été produites par ce clonage qui étaient d'une couleur complètement différente et plein de clones. Et puis c'était très important parce qu'on voyait, on pouvait distinguer même dans les cellules des clones qu'elles venaient justement de ce seul noyau au départ d'une cellule somatique.
Oui, il travaille avec des cellules d'intestin.
Voilà.
Donc il prouve que même avec des cellules d'intestin bien différenciées,
exactement,
il arrive à obtenir des clones. C'est ça. C'est quelque chose de fondamental pour la suite de cette histoire?
Absolument, parce que comme on le disait au début, c'était une des grandes hypothèses qui datait depuis un siècle, que peut-être finalement le génome était atteint ou perdu au fur et à mesure du développement. Mais dans cette manip où on prend une cellule d'intestin qui est bien une cellule très spécialisée et dans un adulte, donc c'est non plus un embryon, cette cellule elle a toute l'ADN qui est capable de tout reproduire. Donc c'était le début vraiment de cette réalisation qu'on pouvait tout cloner, en tout cas chez les animaux, et c'était comme ça finalement que chez le brebis, chez la souris, les gens ont commencé à appliquer ces technologies. Mais ça a pris du temps, ça a pris des décennies, parce que techniquement, c'était beaucoup plus difficile chez les mammifères que chez le xénope.
Manipulation génétique suite, nous avons évoqué hier soir la première mondiale réalisée par des scientifiques écossais qui ont réussi à créer un clone d'animal adulte, à savoir une brebis de 7 mois. Et cela à partir d'une seule cellule, une cellule unique, prélevée sur le pied d'une autre brebis et donc sans spermatozoïdes. Ces manipulations suscitent de vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales évoquées par ce reportage de Jean-Déal Fezakier et Bernard Ronflet. Pourra-t-on demain, chez l'homme, créer à partir d'une seule cellule un second exemplaire en tout point identique? Avouez que certaines fois, ça serait un véritable cauchemar. Au salon de l'agriculture, les moutons de race Dorset en étaient encore bouche bée. Ils pensaient à Dolly, l'agnelle dont tout le monde parle aujourd'hui. Dolly n'est pas un mouton banal, c'est un clone, la copie conforme de sa mère. Elle se ressemble trait pour trait. Dolly a été en effet conçue sans le moindre petit spermatozoïde, pas de papa bélier. Entièrement faite à partir de cellules femelles. Un ovocyte de sa mère, dont on a enlevé le noyau, à la place de ce noyau, on a mis celui d'une cellule de la glande mammaire de la brebis, équipée de tous les gènes nécessaires. L'ovocyte, ayant son compte de gènes, a cru avoir été fécondé, et l'embryon s'est développé. 150 jours plus tard, on pouvait dire « Hello Dolly ».
Le 24 février 1997, on a pu dire « Hello Dolly, la star des clones », donc une brebis écossaise. Alors pourquoi Dolly est une annonce si fracassante alors qu'on a déjà réussi à cloner des amphibiens, Camilla Baumans?
Parce que Dolly, déjà, c'est un mammifère. Donc c'est très difficile d'obtenir des clones de mammifères. Le premier, c'était celui d'un rat en 83, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, parce que c'était pas viable, donc c'était très difficile à obtenir. Donc le fait d'avoir obtenu une brebis, un mammifère beaucoup plus grand qu'un rat, c'était un exploit. Un immense exploit, ça veut dire qu'ils sont arrivés à maîtriser les mécanismes essentiels de la multiplication à tous les stades du développement de l'animal jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Et cette brebis, elle a survécu jusqu'au 14 février 2003. Hein. Malheureusement, le problème, c'est que en fait, les clones, ce qu'on a remarqué, c'est que les clones, au bout d'un certain temps, ils sont fragiles. Enfin, et comme si on accélérait leur mort. Voilà. Donc, ils vieillissent plus rapidement. Ou il y a d'autres, mécanismes qui interviennent qui ne sont pas encore bien maîtrisés. Mais voilà, elle a vécu quand même presque 6 ans et c'est déjà énorme.
Edith Heard, on peut peut-être revenir aussi sur cette prouesse technologique qu'a été Dolly et sur sa méthode de fabrication, entre guillemets.
Ouais. Oui, je pense que, un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le cytoplasme. Donc, en fait, on a parlé beaucoup du noyau qui contient cette information génétique. On sait que c'est ça qui, finalement, peut permettre que l'individu forme et puis peut aussi se reproduire. Mais la partie, je dirais, assez magique, c'est comment cet ovocyte énucléé est capable de transformer l'identité finalement de ce noyau qui venait d'une cellule adulte en quelque chose qui est totipotent. Et donc, même si chez les grenouilles ça marchait assez bien, l'idée que chez les mammifères, et donc quand on parle de brebis, on peut aussi facilement imaginer l'homme, bien sûr. Donc tout de suite, ça a ouvert cette idée, expectation que peut-être tout était possible et que l'ovocyte et le cytoplasme de cet ovocyte contient ce matériel magique qui permet de reprogrammer l'identité d'une cellule adulte pour créer des nouveaux individus. Et donc là, je pense que c'était vraiment le début d'une nouvelle ère de deux points de vue. D'un point de vue, bon, bien sûr, le brebis et d'autres animaux ont intérêt agricole. Donc, économiquement aussi, c'était quelque chose qui tout de suite est devenu très intéressant et très important. Mais de l'autre côté, ça voulait dire qu'effectivement, si on pouvait prendre ces ovocytes avec leur cytoplasme magique qui pouvait reprogrammer, ça voulait dire qu'on pouvait faire ça avec presque toute espèce qui nous intéressait, y compris les primates.
En 97, Edith Hurd, vous vous souvenez, c'est un électrochoc dans la communauté scientifique.
Absolument, c'était aux infos, enfin moi j'étais
à
Londres,
public,
voilà. Et, oui, mais chaque clone, enfin Marguerite, on a parlé de Marguerite un peu plus tard, et c'est vrai que chaque clone était un peu un défi. Je me souviens, c'était première page des journaux, c'était sur Time, enfin voilà, donc c'était un gros choc, et puis ben bien sûr, ça faisait fantasmer les gens après. C'était, voilà, le Brave New World était en train de se passer. C'était le début de quelque chose. Mais aussi, ça a ouvert l'idée qu'on pourrait imaginer des choses thérapeutiques. Que si on parle finalement de clonage, on peut aussi parler de cette capacité de reproduire certaines cellules somatiques en utilisant cette reprogrammation avec le cytoplasme de ovocytes. Donc là, on a commencé à réfléchir à l'idée de peut-être utiliser les cellules somatiques d'un individu, quelqu'un qui avait besoin, par exemple, de greffe, etc. Donc il y avait l'idée que peut-être avec les ovocytes fécondés ou énucléés, on pouvait imaginer la thérapie tissulaire. Mais très vite, effectivement, les problèmes ou les questions éthiques, bien sûr, ont été évoquées. Et heureusement, à ce moment-là, une autre technologie est arrivée, la technologie d'induction des cellules pluripotentes et la découverte de Yamanaka, que finalement, avec une cellule somatique adulte, juste avec un cocktail de quelques facteurs, on pourrait la reprogrammer dans une boîte de pétri sans avoir besoin d'aller chercher les embryons.
Oui, ne pas toucher aux embryons. Ça, les cellules souches pluripotentes, les cellules IPS aussi. Voilà. Antoine Beauchamp a consacré une heure à un Eureka là, il y a quelques jours à ce sujet. Donc je vous invite à écouter cette émission pour comprendre un peu mieux leur découverte et leur fonctionnement. Pour rester un tout petit peu sur Dolly, c'est tout de même une existence tenue secrète pendant 6 mois. Camilla Beaumas, est-ce qu'on sait pourquoi ça a été top secret, cette brebis clonée?
C'était top secret. Déjà, ils attendaient de voir si elle allait être, si ça allait être viable ou pas.
Si ça allait marcher.
Et puis normal, parce qu'on a toujours peur de produire des monstres.
Ah, oui, donc faire apparaître une brebis monstrueuse et clonée. Néanmoins, tout de suite, Bill Clinton, vous évoquez les problèmes éthiques que ça a soulevés. Et en effet, tout de suite, Bill Clinton demande un comité d'éthique sur l'impact de cette découverte et de cette innovation.
Absolument. Ben, comme je l'ai dit, tout de suite, ça a ouvert la réflexion sur la possibilité de faire des choses avec l'humain. Et donc, terrible, le clonage. On revient au premier film dont vous avez... vous nous avez fait entendre, mais aussi l'idée que finalement, vu le potentiel thérapeutique, peut-être c'était quelque chose qu'il fallait vraiment considérer. Comme je l'ai dit, très rapidement, je pense que la discussion a fait que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être soutenable ou supportable dans un monde, dans une société d'aujourd'hui, enfin, ou d'il y a quelques années. Mais néanmoins, il fallait vraiment aborder cette question, parce que manipuler l'embryon humain, c'est quelque chose qui est extrêmement contentieux et important qu'il fallait considérer. Et l'idée, non seulement de le manipuler, mais aussi de pouvoir le cloner, c'était quelque chose qui a effectivement effrayé le monde. Et on voit ça, et après il y a eu des livres sortis, des films, etc. Donc je pense que c'était important, de ce point de vue, de considérer ça au niveau éthique pour l'humain, mais puis aussi pour les animaux, à quel point finalement on veut créer des clones. Comme le disait Camilla, en fait, ces premiers clones n'étaient pas viables très longtemps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quel type de problème il peut avoir? Et est-ce que finalement, même si on essaie techniquement de faire ça aussi bien que possible, on introduit des problèmes des problèmes génétiques ou même autres. Et c'est là où, effectivement, je pense que ça reste une question assez ouverte. À quel point, finalement, un individu produit par clonage est tout à fait normal? Et c'est pas forcément que techniquement on endommage quelque chose, mais aussi parce que le processus de reprogrammation n'est pas si efficace que ça.
Pourquoi tout le monde nous regarde? Tu n'as pas remarqué?
Non, quoi?
France Culture.
La ressemblance entre nous.
Eureka.
Une ressemblance entre toi et moi.
Natacha Triou.
On se rend compte également que le clone n'est pas tout à fait identique de la version originale, ce qui casse un certain nombre de fantasmes. Comment ça s'explique, Edith Heard?
Alors, bon, déjà, comme j'évoquais tout à l'heure, avec le développement et avec l'âge, on accumule quand même des changements, des mutations dans l'ADN qui sont issues des erreurs au cours de la division cellulaire, au cours de la vie. Mais aussi, il y a des changements au niveau épigénétique. Donc, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais sous lequel je suis spécialiste ou censée être spécialiste. Et donc, en fait, même si l'ADN dans toutes les cellules sont identiques dans un individu, et c'est ainsi qu'on a pu faire le transfert nucléaire et le clonage. Néanmoins, différentes parties du génome dans chaque cellule sont traitées différemment. Et donc, il y a des marques épigénétiques qui sont là pour soit masquer l'expression de certains gènes, soit permettre l'expression d'autres gènes. Et on sait qu'au cours du développement, le programme génétique, c'est-à-dire quels gènes sont exprimés, quels gènes sont réprimés, est quelque chose qui est assez reproductible. Mais il y a quand même des variations, il y a quand même des changements ou des différences stochastiques qui font que même deux jumeaux ne sont pas identiques forcément avec toute l'expression de leur gène, même si le génome est identique. Et avec l'âge, ça s'accentue. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on regarde les épigénomes des individus jeunes, des jumeaux jeunes, et on les compare avec des jumeaux plus âgés, il y a une divergence qui est là. Donc on sait qu'il y a cette divergence qui a lieu avec l'âge et avec le temps. Mais aussi, il y a des événements de la vie. On n'a pas parlé de l'environnement. Donc, si on prend deux individus génétiquement identiques, mais on les met dans deux environnements complètement différents, bien sûr, il y aura des différences. La nutrition peut avoir un impact. On sait très bien que si quelqu'un mange certains types de nutrition ou d'autres, on voit des différences au niveau de notre corps. Si quelqu'un fume ou est dans un environnement avec des toxines ou pas. Donc en fait, on sait que les individus sont quand même pas si identiques que ça, même si génétiquement, ils sont identiques. Et ça, c'est très difficile de maintenir l'identité de deux individus, deux clones, s'il y a des variations dans l'environnement.
Alors, autre limite du procédé clonage, hein, c'est le taux de succès. On obtient environ 13 à 15% de réussite. Camilla Beaumas, on comprend pourquoi ça marche bien, mais pas si bien que ça, finalement. Est-ce qu'on comprend ça?
Non, pas encore. On comprend pas encore, les études sont encore en cours, donc il y a plusieurs théories, mais on ne sait pas. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que ils ont remarqué que le problème résidait souvent, plusieurs expériences ont montré que le clonage des mâles est en général plus délicat que celui des femelles, par exemple. Donc et puis, pour des raisons encore inconnues, en fait, il n'y a que 5 à 10% des œufs fabriqués et réimplantés produisent des clones viables ou en bonne santé apparente. Donc, on ne comprend pas non plus pourquoi certaines cellules d'un organisme se clonent mieux que d'autres. Les études sont encore en cours et les histoires de clonage de noyaux entiers, je dirais, n'est qu'à ses débuts, entre guillemets, bien évidemment. Mais ça, donc, on verra dans une cinquantaine d'années où est-ce qu'on en sera. Et pour enchaîner sur ce que disait Edith, c'est effectivement, même si les clones portent un génome nucléaire, donc du noyau identique, il ne faut pas non plus oublier qu'au niveau de la cellule, il y a l'ADN mitochondrial qui, lui, va être différent donc entre la cellule donneuse de noyau et la cellule receveuse. Donc il y a de l'ADN mitochondrial qui lui est différent et qui lui va coder des ARN et des protéines qui seront impliquées dans certains processus qui sont différents. Et donc ça aussi, ça peut intervenir. Il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir et on n'en a pas résolu, je dis même peut-être le dixième.
Si je peux juste rajouter, un des domaines qui est étudié de manière très intense, c'est finalement ces marques épigénétiques. Parce que pour qu'un noyau d'une cellule redevienne totipotente, il faut reprogrammer ce qu'on appelle l'épigénome. Il faut effacer les marques qui font que certains gènes sont réprimés, etc. Et cette reprogrammation épigénétique est peu efficace. Et donc, une des choses que les chercheurs tentent à faire, c'est utiliser des drogues, des molécules aussi, pour voir s'ils peuvent effacer plus de ces marques épigénétiques et donc rendre le processus plus efficace. C'est-à-dire que le noyau somatique, on aide le cytoplasme de l'ovocyte pour mieux reprogrammer finalement ce noyau et pour que l'ADN puisse être utilisé pleinement comme si c'était, un noyau de neuf, tout neuf. Et il faut aussi savoir que les mutations de l'ADN qui s'accumulent, on ne peut pas empêcher que le noyau comprenne à finalement certaines mutations. Et jusque-là, c'était pas si facile de voir s'il y avait des mutations qui allaient faire que finalement cet embryon, à partir de ce clone, n'allait pas être aussi bon qu'un autre parce que le donneur, le noyau qui a été utilisé, était endommagé quelque part au niveau de l'ADN. Maintenant, on peut séquencer tout un génome facilement. Donc maintenant, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère où on va voir est-ce que un noyau qui est utilisé pour le clonage, si on le séquence et on voit il y a ce taux de mutation, finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'efficacité de la production de clones par rapport à un autre noyau qui a un autre taux de mutation?
Alors par rapport au clonage humain qu'on a rapidement évoqué, il y a eu la secte de Raël qui annonce la première petite fille clonée, une annonce qui est évidemment fausse, et puis vient l'annonce de l'équipe sud-coréenne en 2004 qui conçoit des embryons humains à partir de la technique du clonage par transfert de noyaux cellulaires. Là encore, coup de tonnerre, Edith Hurd.
Oui, c'était assez effrayant. Justement, ces questions éthiques ont fait beaucoup de débats et finalement, clairement, c'était... Mais malheureusement, en science, il y a aussi ce côté un peu, je dirais, noir où les gens, et en particulier dans ce cas, ont quelque part un petit peu fabulé ou fabriqué finalement les données. Donc on ne sait pas.
L'article a été rétracté par la suite.
Donc on ne sait pas exactement ce qui a été fait ou pas fait, mais en tout cas. Je pense qu'on était tous soulagés que c'était probablement pas du tout le cas.
Pourquoi ce soulagement?
Je pense que éthiquement, c'est difficile d'imaginer qu'il y aura la volonté d'avoir des clones humains parce que là, on peut vraiment rentrer dans l'éthique. Chaque individu est unique. Et l'idée de vouloir reproduire à l'identique d'autres individus est quelque chose qui est très perturbant, je pense, au niveau de l'identité de l'humain, de la dignité. Et je pense que c'est quelque chose où c'est très important que les scientifiques, les philosophes, les gouvernements sont très vigilants par rapport à ces débats. Parce que la science va continuer, va accélérer. Les techniques vont devenir encore plus efficaces. La capacité de pouvoir faire ça de manière, je dirais, très reproductible, c'est clair que ça sera possible, je pense. Mais c'est à nous, finalement, de mettre les freins et le cadre qu'il faut.
Camilla Beaumas, pour conclure et pour poursuivre sur ce mot de fin, sur les questions éthiques que soulève le clonage d'un organisme entier?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes. Déjà, par rapport, sans arriver déjà à l'homme, en parlant des végétaux, c'est très controversé. parce que...
Mais pour rester vraiment sur le clonage humain, puisqu'on arrive sur la fin de cette émission et qu'on parle de clonage humain...
Si on veut de clonage humain, d'accord. Ça porte en fait des problèmes philosophiques du style comment devons-nous considérer le clone ? Est-ce que c'est un homme à part, à part entière ? Est-ce que c'est une pâle reproduction ? Est-ce que c'est une sorte de sous-homme ? Devons-nous le considérer comme notre égal ? Ou faut-il créer une législation nouvelle pour les clones ? Il y a tellement de questions à débattre. Il y a même si on arrive à le faire un jour et ça tombe entre des mains malveillantes, hein, qu'est-ce que ça va donner ? Donc, développer une race suprême, hein, voilà. Il y a aujourd'hui les opposants au clonage qui sont très pressés pour arriver à un consensus international. Par exemple, les États-Unis, avec plus d'une cinquantaine d'autres pays, ont signé un appel à une interdiction totale de clonage humain. Il y a un autre texte interdisant seulement le clonage reproductif a été rédigé par la Belgique et soutenu par à peu près une vingtaine de pays, dont la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Danemark, par exemple. Donc, c'est très compliqué, cette histoire de clonage humain, oui. En espérant que ça restera sur un plan thérapeutique.
Oui,
donc à l'échelle cellulaire et non pas à l'échelle individuelle.
Oui, pour le moment, de nombreux pays, hein, où il existe de nombreux pays, hein, où il est interdit de travailler sur des embryons humains. Merci à vous deux, merci Edith Hearn, merci Camilla Beaumas, hein, pour cette histoire du clonage. On se quitte avec une pensée pour Copycat, le premier clone en 2001 d'un animal de compagnie, Copycat de Billie Eilish.
Be cautious, don't be kind. You committed, I'm your crime. Push my button anytime. You got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame. Dirty water, poison rain. Perfect murder, take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. By the way, you've been uninvited, 'cause all you say are all the same things I did. Copycat trying to cut my manner. Watch your back when you can't watch mine. Copycat trying to cut my glimmer. Why so sad when you can't have mine?
Merci à toute l'équipe de Réka, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Garance Prima-Anlo, à la réalisation Félix Levacher, épaulé par Maria Pasquet, et à la technique aujourd'hui, c'était Élise Leu. Merci à Antoine Villoz pour la documentation musicale. Vous pouvez réécouter cette émission à toute heure sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On se retrouve vite pour un prochain épisode de Réka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer.